Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Claude Rouchouze qui vient annoncer une assemblée générale de son association de sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme qui aura lieu le 11 mars à la salle Joseph Reynaud
à 20h.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Alors donc tu es venu nous parler de ces cimetières familiaux. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu, même si tu es déjà venu à plusieurs reprises en parler, qu'est-ce qu'un cimetière familial et pourquoi c'est important de les sauvegarder en fait ?
Eh bien, les cimetières familiaux donc sont les petits cimetières que l'on voit un petit peu à gauche et à droite dans l'ensemble du Diwa. Mais pas seulement dans le Diwa, il y en a aussi du côté du pays de Bordeaux, il y en a dans les Cévennes, il y en a du côté de La Rochelle, dans la Mayenne. Donc ce sont, ils ont une histoire qui est liée en fait à l'intolérance royale de Louis XIV vis-à-vis des protestants. À la révocation de l'édit de Nantes en 1685, eh ben Louis XIV a interdit la religion protestante, révoquant l'édit de Nantes qui, lui, avait établi un équilibre entre protestants et catholiques. L'édit de Nantes, c'était Henri IV. Donc Louis XIV révoque cet édit et interdit l'exercice de ce que l'on appelait la religion réformée. À ce moment-là, soit les protestants se convertissent, donc ils deviennent les nouveaux convertis, soit ils émigrent, ce qui s'est passé de façon importante, puisque certains villages d'Iowa ont perdu un tiers de leurs habitants par émigration vers la Suisse et vers l'Allemagne, soit ils sont condamnés. Sur l'ensemble de la nation, on a eu 2800 protestants condamnés aux galères. Il faut savoir tout de même qu'il y avait, à cette époque-là, donc dans les années 1560, sur l'ensemble de la France, environ 2 millions de protestants, et que 100 ans plus tard, il n'y en avait plus qu'un million. Il y a eu vraiment une intolérance, et cette intolérance était donc telle que les protestants ne pouvaient pas, à moins de se convertir, être enterrés dans les cimetières catholiques. Comme ils ne pouvaient pas être enterrés dans les cimetières catholiques, ceux qui refusaient de se convertir s'enterraient en secret, dans leur champ, dans leur propriété, la nuit. Il s'est créé donc des cimetières interdits qui ont perduré. L'intolérance, cette révocation de l'édit de Nantes, cette intolérance a duré près de 100 ans, puisqu'il a fallu attendre en fait l'édit de tolérance de Louis XVI le 7 novembre 1787 pour que les protestants retrouvent un peu leurs droits. Et ensuite, alors en 1789, la Révolution française leur a redonné tous leurs droits, la liberté de culte. Donc à ce moment-là, ils auraient pu abandonner ces cimetières familiaux, puisque là, ils pouvaient être enterrés dans les cimetières communaux. Mais non, les familles ont gardé la tradition, et cette tradition s'est maintenue jusqu'en 2012. Il y a encore de nombreuses familles dans le Diwa qui possèdent un cimetière familial et qui l'utilisent. Alors, bien entendu, comme il y a eu maintenant de nombreux mariages entre catholiques et protestants, des personnes qui ne pratiquent pas, ils sont devenus des cimetières familiaux, ouverts à tout le monde, en fait. C'est les familles, et les familles, maintenant, sont variées au niveau des pratiques religieuses. Mais de nombreuses familles tiennent à ces petits cimetières, qui sont souvent joli, en pleine nature, classiquement avec un cyprès symbolique au coin du petit carré.
Et enclos, ils sont enclos souvent, non ?
Ils sont pas toujours. Et ils sont enclos, ce qui est d'ailleurs une protection, mais il y en a qui ne sont pas enclos. Alors, il y en a, malheureusement, parce qu'il y a des familles qui n'ont pas de descendants. Et ces cimetières sont privés. Ils ne sont pas pris en charge par les communes. Ils sont strictement privés. Donc, quand la famille disparaît, le cimetière, cette fois-ci, tombe à l'abandon. D'où la création de cette association de sauvegarde des cimetières familiaux, parce qu'on s'est aperçu que près d'un tiers de ces cimetières familiaux dans la Drôme étaient abandonnés. Dans la Drôme, on estime le nombre de ces cimetières à plus de 600. Et dans le Diwa, on est pas loin de 300. Hein. Mais on n'a pas une estimation globale de pour ça d'ailleurs que l'association a été créée. L'inventaire exhaustif de ces cimetières, assez curieusement finalement, n'a jamais été fait. Donc il y a une non-connaissance de l'ensemble de ces cimetières. Il y a eu un travail fait par Jean-Noël Couriol, mais qui était un repérage rapide. Il y a eu un travail fait par l'IGN, parce que sur les cartes IGN, il y a tout de même une petite croix qui indique tombe, donc ça indique souvent un cimetière familial, mais les cartes IGN, en général, ne notent qu'à peu près 50% de ces cimetières. Il peut y avoir un cimetière avec une seule tombe. Même au XXe siècle, et puis même maintenant, un protestant peut vouloir être enterré chez lui de façon anonyme, sans aucune inscription, s'il le désire. Il y a aussi des cimetières qui sont bien délimités, mais où, par tradition, les familles n'indiquent pas les noms des personnes qui sont enterrées. Elles les gardent en archives dans la famille, mais il n'y a pas de stèle, il n'y a pas de dalle, comme dans les cimetières communaux.
C'est un résidu de l'époque où ils sont enterrés en secret, non ?
C'est assez curieux, c'est un peu un résidu, la tradition du secret s'est maintenue. Bon, elle diminue, hein. Maintenant, en général, quand il y a un enterrement dans les cimetières familiaux, il y a souvent soit une petite plaque, soit ce qui est de plus classique, une dalle, qui est soit en calcaire, soit en granit. Par contre, au XIXe siècle, c'était plutôt des stèles verticales, assez jolies, où il pouvait y avoir plusieurs noms. Donc il y a aussi le problème de la conservation de ces stèles, avec des noms des personnes qui remontent aux années 1850, 1880, voilà. Avant, c'était vraiment secret, c'était probablement en bois, et ça a disparu.
Alors, ce sont des petits cimetières familiaux, si je ne m'abuse.
Voilà, c'est des petites pierres que, bon, il y en a qui arrivent à faire quand même 30 mètres sur 30 mètres, mais en général, c'est dans les 15 mètres sur 10 mètres, dans les 150 mètres carrés, parfois beaucoup moins. Ils sont intéressants au niveau botanique aussi, parce qu'on peut y trouver, les familles y ont planté souvent des cyprès, qui est un arbre symbolique, qui ne perd pas ses aiguilles, symbole de la vie, voilà, un arbre sacré un peu, le cyprès. Donc quelquefois on repère un cimetière, quand on regarde le paysage, par un petit carré de végétation avec un cyprès. Donc il peut y avoir d'autres plantes aussi. Ils peuvent avoir un intérêt botanique. Ils ont un intérêt généalogique, parce que les noms sont gravés avec date de naissance et date de décès. Même quelquefois des petites plaques, il arrive qu'il y ait une petite plaque offerte par les chasseurs, si c'était un chasseur, par une petite plaque avec un tracteur, si c'était un agriculteur. Il y a aussi quelquefois des indications sur le métier du défunt. On a aussi alors l'intérêt historique de cette longue histoire du protestantisme dauphinois. C'est un témoin de cette longue période. Donc cette intolérance a pris fin à la Révolution.
Un des buts de votre association, c'était donc le recensement. Quels sont les autres buts de cette association ? Est-ce que vous vous battez pour la restauration ?
Alors l'association est récente, hein, elle a été créée en mai 2012. Donc c'est tout à fait récent, il y a une quarantaine d'adhérents. Et le premier souci que l'on a, c'est vraiment, parce que c'est incontestablement la priorité, c'est l'inventaire. Donc on a mis au point une fiche descriptive de ces cimetières. Et cette fiche indique où est le cimetière, dans quel état, qui est enterré, si éventuellement il y a des personnalités, ce qui peut arriver, comme le député Arsimbault à Poyol, par exemple, des éléments biographiques que l'on peut ajouter à la fiche descriptive. On met une photo, on met comment on accède au cimetière, l'intérêt au niveau botanique, l'intérêt au niveau architectural, est-ce qu'il y a des dalles, est-ce qu'il n'y en a pas. Voilà, donc cette fiche est très précise et permettra à l'avenir d'avoir vraiment l'inventaire complet de tous ces cimetières familiaux qui sont assez souvent... méconnus, non pas des Dihouas, parce que les Dihouas vraiment connaissent ces cimetières familiaux, mais de la part des touristes, par exemple, il y en a qui se demandent vraiment ce que c'est que ce petit carré. Bon, quand ils vont sur place, ils voient bien qu'il y a des tombes, mais ils ignorent tout de l'histoire, de l'origine de ces cimetières. Ils sont tout à fait étonnés, parce qu'en effet, la majeure partie des régions françaises n'en possèdent pas. Mais il y en a tout de même du côté de La Rochelle, dans les Cévennes, dans l'Ardèche, et dans l'Isère, il y a certaines régions. Donc ce n'est pas caractéristique du Dihua, hein, mais c'est tout de même l'une des caractéristiques du Dihua.
Donc tu disais que votre premier but était donc de recenser ces cimetières et leurs caractéristiques. En avez-vous d'autres des buts ?
Eh ben le deuxième but, alors, c'est la sauvegarde, parce que certains sont complètement abandonnés, parfois depuis... plus de 100 ans, hein, et l'association s'interroge sur le fait de comment sauvegarder des cimetières qui, des fois, sont très jolis, ont 5, 6, 7 stèles avec des noms. Comme sont des stèles calcaires, les noms s'effacent peu à peu, donc il y a aussi, il faut noter ces noms rapidement. Et la difficulté, c'est que ces cimetières sont privés. On se demande comment sauvegarder quelque chose de privé qui tombe en ruine. Comment une association peut prendre en charge quelque chose qui est privé d'origine, qui tombe en ruine. Mais pour certains cimetières qui sont abandonnés, eh ben on ne peut plus joindre personne.
Et ça ne pourrait pas retourner à la poussière, tout simplement
D'abord, c'est difficile parce que ces stèles calcaires, des fois, elles sont tout de même, elles font 30 cm d'épaisseur et puis 1,20 m de hauteur. Donc, ça peut difficilement retourner à la poussière. Quand c'est abandonné, et quelquefois, assez souvent, c'est délimité par un petit muret tout de même. Hein. Donc, c'est envahi par les ronces, par les aubépines. Et on a un fouillis inextricable dans lequel on devine des stèles. Voilà, on a un souci au niveau de comment prendre en charge ce patrimoine qui est menacé de disparition au même titre qu'une porte intéressante qui serait abandonnée. Voilà. Mais le caractère privé pose un problème.
Ça, et puis il faudrait aussi des moyens. Je ne sais pas si vous avez moyens financiers de ce nom.
Non, l'association est très récente, on n'a pas de subvention. On n'a que les moyens, les petites cotisations de 10 euros annuels de chaque adhérent. Donc il y a aussi, bien sûr, une question de moyens. Mais les moyens sont importants. Mais indépendamment de ça, l'inventaire est à faire rapidement. Parce qu'il y a aussi des cimetières qui sont anonymes. Donc là, c'est seulement la mémoire orale. Dans un village, une personne dit « Ah oui, monsieur un tel, il a enterré dans ce champ ». Et voilà, et puis un point, c'est tout. Donc on sait que c'est monsieur un tel, mais il n'y a aucune trace, et il est quand même là. Voilà, donc il y a un repérage qui est à faire en urgence. Alors c'est aussi intéressant, bien sûr, au niveau historique, parce que bien entendu, plus vous avez de cimetières familiaux dans une commune, plus cette commune avait une population protestante importante. Hein. Et dans le Dihua, c'est très typique. Vous avez par exemple une commune comme Minglon, qui a beaucoup de cimetières familiaux, plus de 30, où il y avait donc une population protestante importante. Et puis vous avez d'autres communes comme Montlore, par exemple, où il n'y a aucun cimetière familial, parce que c'est une commune qui était restée à majorité catholique. Assez souvent... mais pas toujours, puisque Minglon n'est pas en hauteur, mais assez souvent, les villages en hauteur étaient plutôt restés protestants. et les fonds de vallée plutôt catholiques. Mais il y a donc tout un intérêt historique qui concerne cette fois-ci l'histoire du protestantisme, qui intervient. Je rappelle aussi qu'il y a en achèvement ce qu'on appelle le sentier des Huguenots, qui est le sentier qu'empruntaient les Huguenots quand ils fuyaient suite à la révocation de l'édit de Nantes. Donc ce sentier des Huguenots, il parle de Poët-Laval et il va jusqu'en Allemagne du Nord. Il a été retracé et il devient un grand sentier de randonnée à valeur historique. Et ces cimetières familiaux, un certain nombre, sont proches du sentier des Huguenots, bien sûr. Hein. Voilà. Donc il y a aussi ce raccordement au sentier des Huguenots. Et c'est aussi un intérêt de ce côté-là.
Alors, cette AG a pour but de faire un peu le bilan de votre action. Alors,
voilà.
Qu'en est-il de ce bilan? Où est-ce que vous en êtes de ce travail de recensement?
Alors, au niveau du recensement, on est peu nombreux au niveau du recensement, mais on a tout de même avancé. Donc, actuellement, on est en train d'achever l'inventaire sur les communes de Poyol, sur les communes de Vercheny, sur la vallée de Quin. L'ensemble de la vallée de Quin, Saint-Julien-en-Quin, également sur Barnave, mais c'est moins avancé, sur Montmort. Voilà, sur Montmort, c'est en train d'être achevé. Donc on a quelques communes, 4-5, je dirais, où on est proche d'avoir l'inventaire exhaustif. Mais 4 sur tout le département de la Drôme. Hein, donc il y a un gros travail, quoi.
Et alors, tu as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de contributeurs actifs dans cette association. C'est-à-dire, combien de personnes ont mis la main à la pâte, en fait?
Oh, pour ceux qui remplissent les fiches descriptives, on a seulement 4 ou 5. Hein. On est seulement 4 ou 5. Mais on peut aussi simplement nous envoyer un mot par mail, par lettre, par courrier, en disant, je vous signale qu'il y a un cimetière familial ici. Alors, il y a eu des publications. Hein. Moi, j'ai fait une publication sur les cimetières familiaux dans le dernier numéro d'études drômoises, le numéro 52 d'études drômoises. Il y a eu un article sur les cimetières familiaux basé sur la commune de Poyol que je connais bien et sur l'historique des cimetières familiaux. Donc il y a eu une publication, il y a eu une autre publication dans les chroniques du Diois. À Saint-Auban-sur-Ouvèze, il y a aussi une personne qui a fait un peu l'historique d'un cimetière. Elle a été plus loin, c'est presque l'histoire familiale, remontant jusqu'au 19e. Il y a ça aussi qui est possible. On peut s'appuyer sur un cimetière pour retracer l'histoire d'une famille ou de plusieurs familles sur 4, 5, 6 générations. Il y a ça aussi comme intérêt. Donc il y a eu quelques publications, des interviews. Je pense que l'on va probablement accueillir la télévision dans le cadre de l'émission Des Racines et des Ailes. Ils vont peut-être venir pour parler de la Drôme et des cimetières familiaux, qui sont un peu une caractéristique, hein, tout de même de la Drôme. Voilà, donc on a tout de même avancé de ce côté-là. L'association commence à être de plus en plus connue. Il y a eu plusieurs publications, signalements dans le journal du Diois. À Radio Bleu Drôme, je me rappelle, un peu avant la Toussaint, j'avais eu une interview sur ces cimetières familiaux. Voilà, donc c'est quelque chose qui commence à être connu. Alors c'est vrai que les touristes, par exemple, ignorent souvent complètement cette histoire.
Nous aurions pu dire aussi que sur RDIWA, c'est la troisième fois qu'on parle des jardins familiaux.
Oui,
nous aurions pu.
Parce qu'on a participé au Forum des associations. Donc, dans le cadre du Forum des associations, on a parlé de l'association. Et puis, on avait fait, dans le cadre de la Journée du patrimoine, une exposition à Poyol qui concernait à la fois la géologie du Diois et un petit peu les cimetières familiaux. On n'avait pas beaucoup de matière à ce moment-là, mais tout de même un peu. Donc, il y avait eu une centaine de visiteurs. La première exposition qui ait jamais été faite sur les cimetières familiaux qui existent tout de même depuis 1685.
Eh bien, Jean-Claude, merci de tous ces renseignements. On va peut-être te rappeler les coordonnées de cette association.
Les coordonnées, donc, moi je suis le président, donc on peut m'envoyer un courrier à Jean-Claude Rouchouz au 39 rue de l'Armellerie à Die. Le téléphone, c'est 04 75 21 02 00 et par mail aussi jeanclaude.rouchouz info@gmail.com.
Rappelons une dernière fois, donc le 11 mars à la salle Joseph Reynaud à 20h, vous êtes tous conviés. Hein, si ce sujet vous intéresse, de participer à cette AG de cette association.
On parlera aussi de quelques personnalités enterrées dans ces cimetières familiaux.
Bien, Jean-Claude Rouchouze, merci.
Merci
et à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir. Interview.